Vous écoutez On lit pour vous.
Incursion dans le quotidien d'une chauffeuse d'autobus. Un texte de Caroline Monpty, paru le 29 novembre 2025 dans Le Devoir. Arrivée au garage Mont-Royal à 5h40, Bella Lisa Boireau astique soigneusement les grandes vitres de son autobus qui desservira la ligne 51 durant l'heure de pointe du matin. C'est un vieil autobus, dit-elle. Il va sauter. Récemment, j'ai conduit des hybrides. Ils font moins de bruit dans les trous. Avant de devenir chauffeuse d'autobus à la Société de transport de Montréal, STM, il y a 6 ans, elle a travaillé au service à la clientèle de banques et de compagnies d'assurance. Comme bien d'autres chauffeurs, elle suit cette semaine un horaire brisé. Départ du garage Mont-Royal, coin Folhomme, pour faire 2 trajets de 51, puis retour au garage à 8h48. Elle retournera alors chez elle à Longueuil pour revenir à 1h et reprendre son autobus jusqu'aux alentours de 18h. Moi, je n'habite pas trop loin, je peux rentrer chez moi pendant la pause, mais il y a des gens qui ne peuvent pas le faire, alors ils doivent passer toutes leurs heures d'amplitude au garage. Les journées se déploient souvent sur 12h et couvrent les heures de pointe du matin et du soir. La semaine prochaine, Bella Lisa sera réserve. Elle ne connaîtra donc son horaire du lendemain que la veille à 17h. Aussi, ces dernières années, les horaires ont été comprimés et les périodes de pause qui permettent notamment d'aller aux toilettes rétrécies. N'empêche, à 37 ans et possédant une 5e secondaire, elle a un diplôme d'études professionnelles en cuisine, Bella Lisa Boireau gagne un salaire de 78 000 $ par année. Avec les primes liées au travail de nuit, de week-end, et aussi les primes lorsqu'on sort l'autobus du garage ou lorsqu'on le rapporte, c'est assez pour rêver de s'acheter une maison où elle logera notamment son père de 83 ans. « Dans ma maison, il y aura une grande cuisine », explique-t-elle en conduisant. « J'adore cuisiner ». Les chauffeurs ont également accès à un fonds de pension et à des vacances payées selon l'ancienneté. Et puis, elle aime la liberté de conduire son autobus, d'être maître à bord. « Je mets ma petite musique et je suis tranquille », dit-elle. Après avoir testé les freins de l'autobus, la chauffeuse plonge dans la nuit noire et traverse la ville avant de se prendre un café au Tim Hortons. À la STM, il est strictement interdit d'être en avance sur l'horaire pour que les usagers n'attendent pas en vain un autobus qui serait déjà passé. Les retards sont tolérés lorsqu'ils sont justifiés. Au premier arrêt, les usagers sont déjà en file indienne. Toutes sortes de passagers. L'une des difficultés du métier, c'est une certaine clientèle, raconte-t-elle. Il y a ceux qui vous aiment trop. 3 des chauffeurs interrogés ont dit avoir été suivis ou harcelés par des passagers dans l'exercice de leurs fonctions. J'ai un client qui m'a suivi. Il surveillait mon horaire et chaque matin, il faisait mes lignes, raconte Bella Lisa. Comme chaque semaine, mon horaire était différent, il ne pouvait plus me suivre, mais des fois, ça fait peur. Et il y a ceux qui vous détestent. Les clients mécontents sont de plus en plus nombreux ces dernières années et les incidents violents se multiplient. C'est pas toujours facile, dit Bella Lisa. Il y en a qui chiolent beaucoup du fait qu'on est en retard. Ils pensent que c'est de notre faute. Il y a de la violence verbale. Les gens pensent qu'on prend notre temps, mais au fond, on respecte notre horaire. C'est juste que des fois, ça prend plus de temps pour arriver parce qu'il y a des détours ou des conditions de route difficiles. À 6h30, l'autobus est déjà plein de travailleurs, dont certains ont de jeunes enfants qu'ils emmènent sans doute à la garderie. Le bus 51 traverse des quartiers assez cossus. 1 heure plus tard, il est bondé d'élèves en uniforme d'école privée. En fin de journée, il n'est pas rare que la chauffeuse doive intervenir auprès d'écoliers survoltés. Parfois, quand ils crient ou se bagarrent, j'interviens, parce que ça peut déranger d'autres usagers, dit-elle. Le choix des routes et des horaires est distribué entre les chauffeurs de la STM en fonction de l'ancienneté. Plusieurs ont souvent des routes qu'ils préféreraient éviter. Il y a des clientèles qui sont plus difficiles que d'autres, dit Bella Lisa. C'est le cas de la ligne 161 Van Horn, par exemple, ou de la 55 Saint-Laurent. On dirait que les gens sont moins patients. Il voit bien que l'autobus est plein. Tu dois partir, il y aura d'autres autobus, mais il cogne sur la porte. Aux heures de pointe, les autobus passent en principe toutes les 2 minutes et puis il faut faire avec les chauffards, rester prudent malgré le stress. Elle dit aussi éviter autant que possible les routes de nuit. La nuit, on dirait que je ne m'habitue jamais. Je m'endors, c'est plus lent, c'est plus calme, il y a moins de monde. Les autobus de nuit servent aussi de refuge aux sans-abri qui viennent dormir sur leurs bancs. C'est arrivé souvent, confirme-t-elle. Ils entrent et ils se couchent derrière. Ils font tout le trajet avec moi. Quand j'arrive au terminus, je n'ai pas le choix de leur dire que c'est terminé. Quant au fait de travailler dans un monde encore majoritairement masculin, elle n'y voit pas d'inconvénient. Travailler avec des femmes, c'est compliqué, s'amuse-t-elle. En ce qui concerne les collègues, Bella Lisa Boireau affirme d'ailleurs que c'est le meilleur emploi qu'elle ait jamais eu. Mais ton mode de vie change complètement avec des horaires de 12 heures, signale-t-elle. Même sans enfants, c'est difficile. Durant sa longue pause du matin, elle va parfois au gym. Mais des fois, ça fait du bien de ne rien faire. La violence en augmentation. Une enquête de la CBC, diffusée cette semaine, faisait état de hausse marquée des cas de violence recensés dans les transports en commun au pays. Alors que la ville de Winnipeg a vu l'incidence de ces cas tripler au cours des 5 dernières années, les crimes dans les transports en commun ont plus que doublé à Montréal entre 2015 et 2023. En 2023, le syndicat des chauffeurs de la STM a recensé 400 incidents impliquant de la violence contre ses membres. C'était « Incursion dans le quotidien d'une chauffeuse d'autobus », un texte de Caroline Monpty, paru le 29 novembre 2025 dans « Le Devoir ».
Cette centenaire, avec toutes ses capacités intellectuelles, a choisi l'aide médicale à mourir, un texte de Martin Lavoie, publié le 2 décembre 2025 dans le Journal de Québec. Une centenaire, qui n'avait rien perdu de ses capacités intellectuelles, brille maintenant dans le ciel après avoir choisi l'aide médicale à mourir lundi. Quelques semaines plus tôt, elle habitait seule et était autonome, mais 2 chutes et un ACV ont eu raison de sa détermination. Elle a créé une certaine commotion la semaine dernière en annonçant au personnel et aux autres résidents avoir choisi l'aide médicale à mourir. J'ai commencé à avoir de la difficulté à utiliser la marchette. J'ai une main dont je ne peux me servir, l'autre avec laquelle j'ai de la misère. Je ne vois plus d'un côté. Je suis rendue au bout. Tu sais, quand le verre commence à renverser, il est temps de faire quelque chose. En plus, tu as du mal 24 heures sur 24. Tu ne dors pas. On va fermer la boucle, a-t-elle déclaré de manière très sereine lorsque rencontrée jeudi dernier. Longue réflexion. L'idée lui trottait dans la tête depuis ses ennuis de santé. Elle en a parlé à son médecin de famille, qui l'a dirigé vers un spécialiste. C'est à 14 heures, hier, que l'intervention a eu lieu dans sa chambre. Mes enfants ont accepté ma décision parce qu'ils me connaissent. Ils savent que je suis mûre pour ça. Ça a commencé quand je me suis fracturée la hanche et que je n'étais plus capable de ne rien faire. Ma décision ne me cause aucun stress, même que j'ai hâte. Quand le médecin a accepté, j'ai dit « Vous me faites un vrai beau cadeau », avait raconté avec aplomb la dame qui n'a jamais utilisé de lunettes. Si elle est reconnaissante de l'occasion que l'aide médicale à mourir lui donne, elle plaide pour son élargissement. Les derniers instants de Mme Fizet-Germain feront d'ailleurs l'objet d'un documentaire. C'est trop serré. il faut élargir pour soulager bien du monde. Il y en a d'autres qui sont gênés, qui ont peur de la réaction de leurs enfants. Les miens m'ont dit « C'est mon choix, c'est mon corps, c'est ma vie. » Grande travaillante. Mère de 3 enfants, qui s'est retrouvée veuve subitement à 26 ans, elle a travaillé durant 38 ans à l'hôtel Les Écureuils, dans la municipalité aujourd'hui fusionnée de Donnacona, avant de faire du bénévolat pendant 20 ans dans une RPA. Je m'occupais du bar. Mais quand des Américains arrivaient, comme ma sœur ne parlait pas anglais, je m'occupais du restaurant. Et quand les gars du garage étaient partis, c'est moi qui tankais les voitures. J'ai couru dans ma vie. Je me levais à 6 heures le matin et je me couchais à 3 ou 4 heures, avec 3 enfants en plus, se souvenait-elle. J'ai fait la sage-femme 2 fois. Lors d'une tempête dans les années 1940, le voisin d'en face a fait des signaux dans la vitre. Avec ma belle-sœur, nous sommes traversés. Les chemins étaient bloqués et le docteur ne pouvait venir. À l'autre reprise, c'est à sa cousine qu'elle a apporté son aide. Le médecin a dit qu'il n'aurait pas fait mieux. J'ai fait une belle vie. J'aimais tellement la vie. J'ai beaucoup donné, mais j'ai beaucoup reçu. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a eu tout l'amour et le respect que j'ai eu dans la vie. Je ne me connais pas d'ennemis. Une place au ciel. Pour ce qui est de la vie après la mort, elle disait ne pas avoir d'attente. Depuis que je suis petite, je crois qu'en mourant, on devient une étoile. Quand tu vois une étoile filante, c'est quelqu'un qui est parti et qui cherche une place, philosophait-elle. J'ai reçu de très bons soins ici et je suis bien heureuse d'y finir mes jours et de mourir dans mon lit, dit celle qui va donner son corps à la science. Ses cendres doivent être inhumées au jour du 102e anniversaire de sa naissance. La matriarche, à la tête de 5 générations, comptait une 20aine de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants et d'arrière-arrière-petits-enfants. Engagée à 15 ans, Mme Fizet-Germain a été aide-infirmière pour la Croix-Rouge lors de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai menti sur mon âge pour m'engager dans la Défense nationale. J'avais 15 ans. J'ai utilisé les cartes et le baptistère de ma sœur. En rigolait-elle encore. Elle se souvient du transport d'un soldat au sort tragique. Il avait 20 ans et avait perdu les 2 yeux, les 2 bras et les 2 jambes. Il m'a demandé s'il pouvait entendre la voix de sa mère. Je me suis organisée pour qu'il aille chez lui pour l'entendre. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé ensuite, mais à cette époque, on ne pouvait demander l'aide médicale à mourir. Ce qu'ils ont dit. Ça nous fait de la peine, mais nous respectons sa décision. Elle est aimée de tout le monde et tout le monde l'aime. Elle est parfaitement lucide et très zen. Sa maison, c'est ici. Et elle mérite de partir sereinement. Guylaine Dufresne, responsable de la RPA Manoir Cap Santé. C'est une bonne décision. Après la vie qu'elle a eue, l'état physique dans lequel elle se trouve, ça fait une moyenne différence. Sa cousine et meilleure amie, Louisette Huard. Tab! Je n'avais pas aimé tout de suite. Ça a été un choc. Et je ne l'accepte toujours pas pantoute, à de lire Goeggen, ami de longue date. C'était cette centenaire avec toutes ses capacités intellectuelles a choisi l'aide médicale à mourir, un texte de Martin Lavoie, publié le 2 décembre 2025 dans le Journal de Québec.
Parler de religion sans grimper dans les rideaux. Un texte de Philippe Mercure, paru le 4 novembre 2025 dans la presse. Peut-on parler de religion au Québec sans s'énerver? On en doute parfois en écoutant certains politiciens et commentateurs. Et pourtant, c'est possible. J'en ai eu la preuve récemment en allant faire un tour au forum Foi et espace public organisé à l'ancien grand séminaire de Montréal. Il y avait des évangéliques, des sikhs, des musulmans, des anglicans, des catholiques, des juifs. Des gens qui ne partagent ni les mêmes croyances, ni bien souvent les mêmes opinions politiques. Pensez aux juifs et aux musulmans qui, en pleine période de conflit à Gaza, ne sont pas nécessairement sur la même longueur d'onde. J'ai d'ailleurs cru comprendre qu'il n'a pas été simple de les réunir. Mais ça s'est fait. Sur place, j'ai vu des gens de différentes confessions se côtoyer dans des ateliers et s'échanger leurs coordonnées en sirotant du café. Et si vous croyez qu'ils se complaisent dans la même vision religieuse de la vie, détrompez-vous. Ils avaient invité M. Laïcité lui-même, le professeur Guillaume Rousseau, co-signataire du fameux rapport Pelchat-Rousseau, recommandant notamment l'interdiction des signes religieux dans les CPE. Soulignons le courage et l'ouverture de Maître Rousseau de s'être prêté à cet exercice de dialogue. Ce n'est pas une invitation dans une fosse au lion, a précisé Mgr Bruce Myers, un évêque anglican, avant d'interviewer Maître Rousseau devant public. Bien sûr qu'il s'est produit un choc des idées entre Guillaume Rousseau et les religieux. C'était l'objectif de ce sommet organisé par l'Institut Cardus, un groupe de réflexion chrétien. Mais j'ai été témoin de débats respectueux et d'une volonté réelle de discuter et de mieux se comprendre. Dieu, que ça fait du bien, si je peux me permettre d'interpeller une divinité à laquelle je ne crois pas. Évidemment, ceux qui ont la foi se sentent bousculés par la vision de la laïcité du gouvernement Legault et n'hésitent pas à le dire. Des idées comme interdire le port des signes religieux aux éducatrices de garderie ou les prières en public les heurtent profondément. Angad Singh, vice-président pour le Québec au sein de l'Organisation mondiale Sikh, a peut-être le mieux résumé le sentiment général. La séparation de la religion et de l'État, c'est correct, souligne-t-il. On est d'accord avec ça. Mais ça doit s'accompagner d'une liberté de religion. Et dans la vision de la laïcité qu'on voit actuellement, c'est comme si on essayait d'effacer complètement la religion de l'espace public. Quelqu'un qui prie dans un lieu public, plaide en substance les religieux, n'incarne pas l'État. Pas plus que des enfants qui fréquentent l'école primaire. Rappelons que le Parti québécois compte leur interdire le port de signes religieux. La laïcité est utilisée comme un masque, un prétexte pour faire reculer la religion, estime Saïb Kaur, vice-présidente aux communications de l'Association Sikh de l'Université McGill. Stephen Brown, PDG du Conseil national des musulmans canadiens, parle d'une vision dans laquelle la religion est vue comme un manteau qu'on peut enlever et remettre. Tu peux avoir des convictions fondamentales sur la nature de l'univers, sur ta relation avec la nature et avec toi-même. Mais parce qu'un élu à Québec n'est pas d'accord avec ça, tu vas devoir enlever cette conviction, la laisser à la porte pendant 8 ou 10 heures par jour et pouvoir te la réapproprier uniquement quand tu rentres chez toi, illustre-t-il. Ce n'est pas ça, une conviction profonde, continue M. Brown. Il n'y a pas de liberté si tu dis « cette liberté se limite aux 4 murs de ta maison ». Le leader musulman convient qu'il est légitime de discuter de la visibilité de la religion dans l'espace public et en particulier de l'islam. C'est une conversation qu'il est très important d'avoir et de façon ouverte, souligne M. Brown. Les gens doivent être capables d'exprimer leurs peurs et leurs angoisses sans se sentir jugés. Sinon, on ne sera jamais capable d'avoir une vraie conversation. Les questions que de nombreux Québécois se posent à propos de l'islam, il les connaît. Ça veut dire quoi, avoir une plus grande visibilité des musulmans et de l'islam dans la société québécoise? Est-ce que ça veut dire une recrudescence de la religion dans l'État? Est-ce que ça veut dire un recul sur des droits durement acquis, spécialement l'égalité homme-femme? Et c'est qui, ces gens-là? Est-ce qu'ils partagent nos valeurs? Énumère-t-il sans s'offusquer. Il estime que la communauté musulmane doit prendre le temps de comprendre le vécu catholique au Québec pour saisir les réticences envers les manifestations religieuses. Et quand il survient des dérapages comme on a vu à Bedford, je pense qu'il est important pour le vivre ensemble que notre communauté dise très clairement « on n'est pas d'accord avec ça », me dit-il. En échange, il aimerait qu'on cesse d'associer musulmans et intégriste, et qu'on lui donne la liberté d'exister en tant que croyant. Louis Bourque, président du Réseau évangélique du Québec, observe lui aussi un malaise grandissant envers la religion. « On a l'impression, dit-il, que les gens du domaine politique prennent des décisions envers des gens qu'ils ne connaissent pas. On subit les décisions sans même être consulté. On associe souvent la religion à la pensée unique. J'ai trouvé intéressant d'entendre plusieurs de mes interlocuteurs estimer qu'actuellement, c'est la vision non religieuse qui tend à étouffer les autres façons de voir l'existence. C'est comme s'il y avait juste une manière de penser qui est acceptable, dit M. Bourque. Je suis assez vieux pour avoir connu l'Église catholique de la fin des années 1950, et il y avait des problèmes à ce moment-là, convient quant à lui Paul McKay, membre de l'Église catholique de Québec. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le balancier penche de l'autre côté. Il y a comme une volonté du gouvernement actuel de limiter l'expression de la foi dans l'espace public, et je vois un peu ça comme une forme d'autoritarisme. Nous sommes des centaines de milliers de Québécois pratiquants. Rappelle quant à lui Mgr Bruce Myers, évêque du diocèse anglican de Québec. On veut contribuer à la société et on est prêt à être en dialogue avec le gouvernement. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec les opinions rapportées ici, encore moins d'épouser les convictions religieuses de ceux qui les avancent. Mais il me semble que lorsqu'elles sont exprimées aussi calmement, on devrait au moins être capable de les entendre sans faire une crise d'urticaire. C'était « Parler de religion sans grimper dans les rideaux », un texte de Philippe Mercure, paru le 4 novembre 2025 dans la presse.
Réduire le poids du web sur l'environnement, un texte de Jeanne Claveau-Laviolette, paru le 15 septembre 2025 dans la presse. Une seule recherche sur l'Internet peut générer jusqu'à 10 grammes d'équivalent CO2, le même bilan carbone qu'un sac de plastique. Multipliez ce chiffre par 8 milliards, soit le nombre de requêtes faites chaque jour dans le monde. Pour l'entrepreneur Louis Jerecht, 23 ans, c'est beaucoup trop. Il a donc fondé l'agence Nicely en 2023 avec sa collègue designer Salomé Drapeau pour accompagner entreprises et individus souhaitant exploiter un site web en minimisant les répercussions environnementales. C'est ce qu'on appelle l'éco-conception web, un concept mieux connu en Europe. Au Québec, moins de 10 entreprises s'y consacrent. Citation : L'éco-conception permet de faire des sites plus légers, plus rapides, donc qui vont consommer moins d'énergie et avoir une moins grande empreinte carbone. Fin de citation, explique Sylvain Amoros, professeur invité de marketing numérique à HEC Montréal. Les conséquences environnementales des recherches web sont bien réelles. Le numérique cause environ 4 % des émissions globales de gaz à effet de serre, soit deux fois plus que le secteur de l'aviation. Ce chiffre pourrait doubler, voire tripler, dans les prochaines années, en particulier avec l'essor de l'intelligence artificielle, selon plusieurs études consultées par la presse, dont une de l'Agence de la transition écologique, organisme gouvernemental français. À chaque visite d'un site web, une page est téléchargée sur l'appareil électronique, ordinateur, téléphone, tablette électronique. Alléger un site Internet facilite ce téléchargement et permet donc de réduire la quantité d'énergie consommée par l'appareil, mais aussi par les serveurs qui traitent la requête et sont très énergivores puisqu'ils doivent être refroidis. Alléger au maximum. Première étape pour rendre un site web écologique, réduire le champ d'utilisation à l'essentiel. Citation : Un truc tout bête. Je vais enlever tous les caractères indiens et russes dans une police pour alléger son poids. Fin de citation, explique Louis Jerecht. En conservant uniquement les lettres latines et les signes, dollars, point d'interrogation, arrobas, etc., il divise par deux ou trois le poids de la police. Enlever les vidéos qui se chargent toutes seules en arrière-plan, remplacer les images sans valeur ajoutée par des icônes, limiter le nombre de lignes de code, privilégier la version mobile. Additionner l'un à l'autre, tous ces petits changements diminuent le volume de données à transférer et l'énergie dépensée. Autre aspect essentiel pour rendre un site web plus écologique, s'assurer que le centre de données qu'il héberge est au Québec. Pourquoi? Deux raisons. Proximité et hydroélectricité. Plus il est loin, plus les relais sont nombreux et plus la consommation énergétique augmente. L'agence Nicely fait affaire avec un des 67 centres de données sur le sol québécois alimentés à l'hydroélectricité plutôt qu'au charbon, comme aux États-Unis. Citation. On a l'impression que le numérique, c'est immatériel. C'est les nuages. C'est une énorme escroquerie parce qu'il n'y a rien de plus physique que l'Internet. Fin de citation, ajoute Sylvain Amoros, aussi chercheur à la chaire de commerce électronique de HEC Montréal. Tendance à l'obésiciel. Depuis quelques années, la tendance est à l'obésiciel sur l'Internet, c'est-à-dire des pages web de plus en plus lourdes qui consomment beaucoup plus, observe le chercheur, qui explique, citation, « C'est comme si on avait une automobile qui n'est pas plus belle, qui n'est pas plus rapide, dans laquelle je ne peux pas mettre plus de monde, mais qui consomme 115 fois plus d'énergie, de pétrole ou d'électricité. » Fin de citation. Souvent, les lignes de code, images ou vidéos superflues ne rendent même pas service au propriétaire du site, renchérit Louis Jerecht. Sa petite entreprise de 5 employés allie à ses idéaux environnementalistes la conviction qu'un site mieux développé et plus esthétique sert mieux ses clients. Contrairement à la croyance populaire, simplifier un site web ne signifie pas restreindre l'expérience de l'usager, selon lui. Certes, un site web éco-conçu n'élimine pas l'entièreté des émissions de gaz à effet de serre. Tout de même, citation, on épargne quelques kilos de CO2. Fin de citation, se réjouit le jeune entrepreneur. C'est déjà un début pour sensibiliser les clients et utilisateurs aux problèmes véritables qu'est la pollution numérique, affirme-t-il. Bon pour la planète, bon pour l'entreprise. En plus de réduire la consommation d'énergie, l'éco-conception favorise le référencement d'un site web, soit sa visibilité. Autrement dit, un site web plus léger se classe plus haut dans les résultats proposés par un moteur de recherche. Citation. On arrive à quintupler le contenu sur le site web et à diviser l'empreinte carbone par 4. Fin de citation. Illustre Louis Jerecht en citant l'exemple d'une entreprise qui est passée de 50 utilisateurs mensuels à 200 après la mise en ligne de son nouveau site web éco-conçu. À terme, un site web éco-conçu réduit aussi la facture d'une entreprise pour l'hébergement de son site Internet sur un serveur. En 2024, l'agence Nicely a accompagné 20 entreprises dans leur virage numérique écologique. En 2025, elle a déjà fait de même avec 17 clients en seulement 6 mois. Citation. On est vraiment en pleine croissance. Fin de citation, souligne fièrement Louis Jerecht. C'était Réduire le poids du web sur l'environnement. Un texte de Jeanne Claveau-Laviolette, paru le 15 septembre 2025 dans La Presse.